Alors, est-ce qu'on doit vacciner les jeunes enfants, donc 11 ans et moins, contre la COVID-19? Très bon papier de Pauline Gravel aujourd'hui. Et là, on va aller rejoindre le docteur Jesse Papenburg. Donc, il est spécialiste en microbiologie et en infectiologie pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants. Bonjour, docteur.
Bonjour, M. Drainville.
Alors, la raison pour laquelle on s'en parle, c'est que le docteur Fauci aux États-Unis a dit... Écoutez, une première dose de vaccin pour les enfants d'âge primaire devrait être autorisée à la mi-octobre, donc d'ici à peu près un mois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vacciner les enfants, là? On prend pour acquis qu'on a un vaccin sécuritaire et approuvé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que, évidemment, certains vont dire, ben non, mais les enfants, ils sont pratiquement pas affectés par la COVID, là. C'est pas une bonne idée de les vacciner. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Mais en fait, on est chanceux qu'en pédiatrie, le fardeau de la maladie causée par la COVID-19 n'a rien à voir avec celle qui a été qu'on a vue avec nos aînés. Ça, c'est clair. Mais malgré le fait que des issues sévères telles qu'une hospitalisation demeurent quand même très infréquentes en pédiatrie suite à une infection à COVID-19, on a quand même vu des hospitalisations, non seulement au Québec, mais partout au Canada, dont une proportion importante qui ont besoin d'aller aux soins intensifs. Ils sont assez malades pour être hospitalisés. Donc, il y a quand même un fardeau non négligeable de maladies sévères causées par la COVID-19 chez nos enfants. Et je pense que la vaccination pourrait prévenir ce fardeau-là. Donc, il y a l'aspect de protéger les enfants eux-mêmes. Mm-hmm. Mais il y a aussi l'aspect, je pense, de pouvoir réouvrir tous ces aspects de socialisation qui ont été fermés aux enfants, particulièrement d'âge scolaire. Et de le faire de façon sécuritaire. Et on sait que ces interactions sociales sont si importantes pour le développement et le bien-être et la santé mentale des enfants. Donc, la vaccination, non seulement va protéger les enfants, si elle est sécuritaire et si elle est efficace, bien sûr, ça on n'a pas encore vu les données,
ouais.
mais elle va permettre cette réouverture que je crois est primordiale pour le développement de nos enfants.
Il y a des auditeurs, je suis certain, qui vont être surpris d'entendre parler, comme vous venez de le faire, qu'il y a des enfants qui ont été infectés, qui se sont retrouvés aux soins intensifs. Ils se sont retrouvés aux soins intensifs avec quel genre de symptômes? Est-ce que leur vie était menacée, Dr. Papenburg?
Bien, c'est sûr que si un enfant se retrouve aux soins intensifs, c'est quand on est en train de lui donner des supports pour permettre à ses fonctions physiologiques les plus importantes de bien fonctionner, donc respiratoires et ou cardiaques. Et ces enfants-là peuvent soit avoir une présentation pulmonaire ou respiratoire. On a vu ça, je pense, surtout chez nos adolescents qui avaient une COVID plus sévère, où il existe un phénomène post-infectieux, un syndrome inflammatoire multisystémique. Donc, quelques semaines après une infection relativement banale de SARS-CoV-2, il y a une réponse immunitaire dérégulée ou mal régulée qui affecte plusieurs organes et les enfants peuvent devenir très malades très rapidement avec ça. Heureusement que nos traitements anti-inflammatoires fonctionnent très bien pour ce syndrome-là, mais reste quand même qu'une proportion importante de ces enfants-là doit aller aux soins intensifs aussi. Donc, c'est quand même un phénomène relativement infréquent, mais qui peut avoir des conséquences importantes et on s'entend qu'un séjour à l'hôpital, c'est jamais banal.
Non, on s'entend là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que ça prend plus de temps de développer un vaccin pour les enfants?
Bon, il y a plusieurs raisons. Premièrement, je pense que l'idée derrière les programmes de développement de vaccination, c'était de prévenir la maladie chez les personnes qui étaient le plus atteintes, donc les adultes. Donc, il y avait ça, le fardeau de la maladie nécessitait de développer des vaccins pour les adultes en premier. Ensuite, les équipes de recherche ont procédé à des études pour déterminer quelle serait la dose minimale du vaccin qui engendrait des réponses immunitaires, donc des niveaux d'anticorps et d'immunité cellulaire, qui seraient équivalentes à la dose qui a été administrée aux adultes. Donc, on sait que les jeunes enfants peuvent avoir justement une réponse immunitaire plus vigoureuse et qu'on peut justement avoir des vaccins avec une plus petite dose. Et si on a une plus petite dose, on réduit aussi le risque d'effets secondaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec d'autres produits vaccinaux, que ce soit l'hépatite B, l'hépatite A. Il existe une dose pédiatrique qui est environ la moitié de la dose adulte dans la plupart des cas. Et c'est ce qu'on a vu justement avec le vaccin Pfizer qui est en étude avec la moitié de la dose adulte pour les enfants de 6 mois à 11 ans.
Donc, ce qu'on va faire homologuer éventuellement, c'est pas un vaccin qui est qualitativement différent de celui qui est administré aux adultes. Ce qu'il faut déterminer, c'est le bon dosage. C'est ça, dans le fond, qu'on est en train de tester, n'est-ce pas?
En effet, c'était une des premières étapes. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle ça prenait un peu plus de temps pour développer le vaccin pédiatrique. C'est trouver la bonne dose pour les enfants. Ensuite, la FDA a demandé aux producteurs de vaccins d'avoir deux fois plus de sujets dans leurs études chez les jeunes enfants comparativement aux études qui ont été faites chez les adolescents. Encore une fois, pour ça, c'est plus une question de sécurité pour voir s'il y avait des éléments plus rares on aurait plus de puissance pour pouvoir les détecter.
D'accord.
Et finalement, l'FDA a aussi demandé que le temps de suivi soit prolongé. C'était 2 mois chez les adultes et les adolescents, et les études pédiatriques font un suivi pendant 6 mois. Et ça, on sait que la plupart des événements reliés à la vaccination, des effets secondaires, ont lieu ou se déclarent durant les 2 premiers mois. Mais je pense que c'est vraiment par une très grande précaution qu'on a prolongé le temps de suivi à 6 mois pour avoir plus de données et plus de temps sur la sécurité vaccinale.
C'est ce que j'allais dire, pour bien assurer l'innocuité du vaccin. Je parlais avec le docteur Jesse Papenburg, donc il est spécialiste en microbiologie et en infectiologie pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est la première fois qu'on se parlait, Dr. Papenburg. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À la prochaine.